L'actu a lutté
des buts.
Des buts. Ah merde, c'est l'actualité des luttes. Merde.
Alors récapitulons. Pourquoi est-il effectivement presque pire d'avoir Hollande que Sarkozy? Parce qu'en plus d'avoir l'aussi pire de ses politiques, nous avons le supplément du pire de l'anesthésie. Et que, nous le savons, pour 5 ans, et sauf miracle, rien ne peut se passer.
Sauf miracle, et pendant 5 ans, rien ne peut se passer. Vous l'avez peut-être reconnu, l'économiste de l'école de la régulation, Frédéric Lordon. Alors c'était en 2014, 2 ans après le début du mandat de François Hollande. Et alors, depuis 2012, sans voix à la gauche. Il faudra attendre jusqu'à 2016. Enfin, un début de mouvement social. Ça y est, c'est parti. Des jeunes et des moins jeunes dans la rue, ouf, l'honneur est sauvé. Est-ce qu'on peut encore espérer autre chose que sauver l'honneur? En fait, il faut remonter à 2005 pour voir un mouvement social réussir en France. C'était le contrat première embauche. C'est un événement fondateur pour moi. Le début d'un engagement politique. Faut bien commencer quelque part. Et je me suis dit qu'une petite autocritique de militant, ça nous ferait pas de mal. Donc j'ai tendu le micro à Samuel, un militant et prof de philo. Et il pointe le doigt sur ce qui fait mal. La question de l'efficacité de l'action militante.
Tourne, tourne, te laisse-moi enfermer. Bien, tourne. Voilà, bien, tchap, vas-y, on est. Voilà, travaille, c'est bien, voilà, intérieur. Physique intérieur, bien.
Sur mon arc de triomphe ne figurent que des défaites. Depuis 10 ans, à travers la Picardie d'abord, la France ensuite, j'ai visité des usines de robinets, de pistons, de cacao, de lave-linge, de canapés, de chips, de yaourts. J'ai vu des ateliers tout neufs et déjà vides. Des bâtiments immenses et laissés à l'abandon. J'ai vu des ouvriers manifester devant leur société, devant des mairies, des sièges sociaux, l'Assemblée nationale. Je les ai vus organiser des meetings, des concerts de soutien, des réveillons de Noël, remplir des cars pour monter à Paris ou poursuivre leur chaîne en Pologne. Je les ai vus signer des pétitions, distribuer des tracts sur les marchés, se serrer les coudes derrière une banderole, crier dans un conseil municipal. Je les ai vus porter plainte devant les prud'hommes, des tribunaux correctionnels, des cours d'appel, la cour de cassation, être poursuivis à leur tour devant les magistrats. Je les ai vus dénoncer leurs syndicats, former des comités de lutte, séquestrer leurs dirigeants, se monoter aux grilles de la direction du travail, mettre à sac une sous-préfecture, placer des bonbonnes de gaz sur le toit, investir des assemblées générales d'actionnaires, interpeller leur PDG à la tribune. Je les ai vus occuper leur fabrique durant des semaines, des mois, entamer des grèves de la faim, se réunir tous les jeudis dans l'ancien local syndical. J'ai vu tous ces efforts désespérés, ces tentatives vaines, et avec toujours, au bout, la défaite. Qu'on déguise parfois tant bien que mal en victoire. Parce que l'entreprise va rallonger l'enveloppe des indemnités. Parce qu'un pôle logistique sera préservé. Parce qu'une cellule de reclassement viendra offrir un répit. On sauve l'honneur. Mais pas l'essentiel. Les emplois. Ça laisserait le plus vaillant des soldats, il me semble, tant de défaites accumulées. Ça m'a lassé. Le dégoût est monté lentement comme une marée. Mais là, avec les parisos, il s'est installé. Définitif. C'est fini, promis, je n'irai plus aux boîtes. C'est un extrait tiré du livre de François Ruffin, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes.
Gauche, droite, gauche.
Et en fait, ce texte, il est génial parce que dans ce livre, c'est l'introduction d'une réflexion qui est que il ne sert à rien de se battre pour protéger ses emplois, dans un monde où les règles sont à la libéralisation. C'est-à-dire que ce qu'explique François Ruffin, c'est que la bataille devient vaine, elle est perdue d'avance, parce que en face du type qui distribue un tract à la grille de son entreprise, il y a des règles du jeu qui organisent sa défaite à un niveau global. Et donc, ou bien il va falloir changer les modalités de l'action syndicale, et prendre en compte que les rapports de force ont changé de nature, ou bien il faut militer pour le protectionnisme. Alors je trouve ça hyper pertinent parce qu'il me semble que l'une des choses qui désespère le plus quand on regarde le monde syndical, c'est l'absolue continuité qu'il y a entre les actions d'hier et les actions d'aujourd'hui. Entre-temps, le patronat s'est complètement restructuré. Ils ont trouvé les moyens, eux, de nous rendre inoffensifs. Mais nous, par contre, on n'a absolument rien créé de nouveau en termes d'armes politiques. pour pouvoir faire face au nouveau régime d'extension de la lutte. Voilà. Et c'est ça le problème. Et donc, je vais donner un exemple qui me semble flagrant quand même. C'est que sous l'ère Nicolas Sarkozy, on a eu des mouvements sociaux nationaux tous les ans pendant 5 ans et sur des secteurs d'activité extrêmement divers, qui allait de l'éducation nationale au poids lourd, avec la poste, etc., tout ce qu'on veut.
La santé, les retraites,
on a eu tout, on a vraiment tout eu. Et à ce moment-là, il y a eu un basculement. C'est-à-dire qu'à une époque où une masse colossale d'individus dans la rue qui contestent une réforme, finalement, ça a entraîné un rapport de force, et le gouvernement a été obligé de composer avec le mécontentement, eh bien, on a commencé à voir apparaître ce qu'on a appelé le courage politique, c'est-à-dire la capacité que se sont donnés les hommes politiques, finalement, de ne pas tenir compte des mouvements populaires. C'est-à-dire que le courage politique, c'est quand même l'ironie du sort. C'est que le courage politique, ça consiste à mépriser la souveraineté populaire pour faire de la politique une espèce de bunker, d'isolat, où les décisions se prennent en vase clos. Alors ça, c'est quand même génial. Autrement dit, le courage politique, c'est une lâcheté déguisée, c'est-à-dire c'est la stratégie de communication qu'ont nos hommes politiques aujourd'hui pour dire non aux revendications du peuple, de s'appuyer sur les nécessités qui viennent de plus haut. Alors, qui viennent de plus haut, c'est-à-dire les obligations de l'Union européenne parce qu'il y a des directives qu'il faut bien respecter, ça peut être les contraintes de la mondialisation parce qu'il y a des rapports de force globaux, mondiaux et tout ce qu'on veut qui fait qu'on n'a pas vraiment le choix, etc. Donc en fait, le courage politique, c'est la petite lâcheté qui fait que nos dirigeants se cachent derrière des forces plus grandes qu'eux pour pouvoir annoncer au plus faible, c'est-à-dire au peuple, qu'en fait, il va falloir qu'il avale certaines couleurs. Et non, alors, c'est quand même fantastique. Mais alors, donc c'était quoi ces petites phrases? On a eu Nicolas Sarkozy qui a commencé à dire
« J'ai été élu pour conduire un mouvement de réforme sans précédent dans notre pays. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. »
On a eu aussi Villepin, à moins que c'était Raffarin, parce qu'ils ont eu chacun leur petite phrase. Il y en a un qui avait dit « J'entends ceux qui manifestent, mais j'entends aussi ceux qui ne manifestent pas. » Eh oui, c'est sûr. Hein. La manifestation, c'est toujours le fait d'une minorité, même en mai 68 et même en 1789. C'est toujours pareil. Et puis, il y a eu De Villepin qui avait dit aussi la même chose. Alors ça, c'était Raffarin, pour le coup. Alors, l'autre, c'était De Villepin. Et Raffarin avait dit « C'est pas la rue qui gouverne. Hein. » Donc voilà, c'était très clair. Là, on voyait bien qu'il y avait un changement à l'intérieur de la sphère politique, dans le rapport au peuple. La souveraineté du peuple était plus comprise comme l'autorité morale ultime à laquelle, finalement, il faut se référer pour la conduite de l'action politique, mais elle était comprise comme, finalement, la force avec laquelle il faut bien composer. Ça s'appelle le dialogue social. Il faut quand même bien entrer en dialogue avec elle, donc autant qu'il soit pacifique, puisqu'au passage, de toute façon, il faudra la faire plier. Donc si on peut quand même pacifier le processus qui vise à sa propre exploitation, c'est quand même mieux. Et puis, donc il faut quand même... Donc c'est une force encombrante avec laquelle il faut composer. Et lorsqu'en réalité, elle entrave des réformes qui paraissent nécessaires ou dont on n'a pas assez expliqué au peuple que de toute façon, elles seront nécessaires parce qu'elles relèvent d'un commandement qui vient de plus haut, notamment puisque plus de 80% des lois en France sont des applications directes de directives européennes, eh bien, à ce moment-là, c'est difficile de dire au peuple, en fait, vous êtes souverain, mais il va falloir quand même avaler ce truc dont vous ne voulez pas. Et donc, ça passe par le cynisme politique.
C'est pareil, quand tu boxes, on parle dans le fond. Et toujours une oreille qui traîne vers nous. Et quand on te parle, on ne regarde pas. Jamais.
Et donc, on a cette espèce de retournement complet des valeurs qui fait que le peuple n'est plus conçu par le pouvoir politique dont il tire son pouvoir comme une autorité. C'est ça qui est fondamental. Et là, ce que dit Lordon, c'est ça. Ce que dit Ruffin, c'est ça, c'est les gens se battent comme si ils étaient encore détenteurs de l'autorité politique. C'est-à-dire comme s'ils étaient encore, pour les responsables politiques, finalement, les maîtres, les posséders de la légitimité en ultime ressort. Et alors, ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que ça crée une difficulté psychologique, disons ça comme ça. C'est que les gens qui donnent une énorme part d'eux-mêmes, ils vont faire des journées de grève, ils vont être des syndicalistes...
je veux dire, chevronnés, qui sont là mobilisés de tous les instants. Peut-être qu'aussi ils vont sacrifier, je sais pas, leur vie de couple ou s'abandonner, voilà. Et puis il y en a qui vont passer, d'ailleurs, il va y avoir de la case, donc il va y avoir des copains qui vont se retrouver au chômage, etc. Il va y avoir beaucoup de vexations, beaucoup de blessures qui vont s'accumuler, et les types vont quand même continuer. On peut penser au Conti, par exemple, le combat a duré des années avec beaucoup de casse, etc. Si à un moment donné, les types se disaient, mais en fait, on a fait tout ça pour rien, quoi. Mais on a fait tout ça pour rien, non pas parce qu'accidentellement, ça a échoué, mais parce que dès le départ, vu les méthodes qu'on a mises en place dans ce nouveau contexte, ça devait échouer. Enfin, c'était pas possible que ça réussisse. Donc là, se dire ça après tant d'efforts et tant d'énergie dépensée, ça consisterait en une remise en cause de soi-même tellement violente, d'autant plus que derrière, il n'y a pas forcément de formule de solution qui apparaissent, hein, c'est pas parce qu'on a conscience qu'on ne fait pas bien que du coup on saurait comment mieux faire, que précisément, il vaut mieux penser que c'était la bonne méthode, mais que, en face, le cynisme, la trahison, je ne sais pas, le mépris, etc., a joué à plein, et on va utiliser cette énergie-là du mépris, de la trahison, etc., pour précisément engager les camarades à revenir à l'action, à pousser plus loin l'action qui n'a pas marché. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale, c'est Vaclavic qui développe ça, c'est le truc du plus de la même chose. Ah, vous savez, il y a l'exemple classique du le plus de la même chose, c'est-à-dire la maman qui dit à son gamin, bon, tu vas faire la fête, mais tu rentres à minuit, pas plus tard, sinon ça va m'inquiéter, puis il rentre à 1h du matin. Du coup, elle l'engueule, et comme elle l'engueule, le gamin, il est vexé, il part fâché dans sa chambre, et du coup, la fois d'après, quand il fait la fête, il a plus envie de rentrer, parce qu'il se dit, putain, ma mère va encore me prendre la tête, donc il rentre encore plus tard, donc elle se dit, mais il a pas compris, donc elle gueule encore plus fort, et en fait, plus elle gueule, et plus elle engueule son gamin, et plus lui, il se renferme sur lui-même, il est dans une stratégie de lutte, et donc plus il transgresse, etc. Et donc, en fait, donc, bref, c'est le truc de plus de la même chose. C'est-à-dire que la maman voit tout simplement pas que c'est la solution qu'elle croit apporter au problème pour obtenir de son fils ce qu'elle veut est précisément ce qui crée le problème qu'elle veut éviter. Donc voilà. Donc nous, c'est exactement ça. On ne voit pas que plus le syndicalisme persévère dans la même voie et plus il envoie les gens dans un mur dont il tire la conséquence que si le mur n'a pas cédé, c'est parce qu'on n'y est pas allé assez fort. Et donc il faut mettre encore plus de crainte dans le mur. Et donc en fait, au fur et à mesure que les gens tombent au pied du mur et qu'on perd toutes les ressources militantes, nos syndicalistes se disent qu'il faudrait trouver un moyen de faire le gros coup, l'énorme coup. Alors que non, c'est qu'il faut arrêter d'aller dans le mur avec nos crânes et qu'il faut sans doute trouver un autre moyen d'aller de l'autre côté. Et donc c'est tout le problème. Et c'est ce qui s'est passé en 2010 quand on a eu l'apothéose de cette folle stratégie de lutte où ça a été le combat pour les retraites. On a eu plus de monde qu'en mai 68 qui a été mobilisé. C'est, on avait pendant un mois 4 millions de personnes qui étaient toutes les semaines quand même dans les rues en France. On a à tel point bloqué le pays qu'on allait commencer à avoir des problèmes en termes d'approvisionnement et de raffinage de pétrole. Les Belges étaient solidaires avec nous et donc Nicolas Sarkozy, il faut se souvenir, a été obligé de réquisitionner les CRS pour contraindre les salariés à remettre en marche les usines de raffinage en France sous la menace sinon de poursuites judiciaires, etc. Donc ça allait extrêmement loin dans la remise en cause du droit de manifester, etc. Enfin bref, c'est allé très très loin. Et à la fin, on a obtenu que dalle. Rien. Des mois et des mois de lutte avec des millions de personnes dans la rue. En plus, une cause générale qui mettait tout le monde d'accord. Tous les sondages étaient contre la réforme du gouvernement. Il y avait 60%, 65% des Français qui ne voulaient pas passer à 62, puis à 65, etc. etc. Donc, et pourtant, on a perdu. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, nos hommes politiques, ils ont les moyens eh bien, de nous dire non, en fait. Ils ont les moyens. Donc ça veut dire que nous en face, Il y a des armes qu'on n'a pas, visiblement. Il faut qu'on change de méthode. Et en fait, non. On voit aujourd'hui, depuis qu'Hollande il est élu, c'est toujours la même stratégie syndicale. Il y a un appel à une première journée de grève. On se compte. C'est toujours les plus militants qui y vont, qui sacrifient leur journée de salaire. On est une minorité. On essaye de ne pas se trouver ridicule dans les médias. Et puis, deux semaines après, il y a une deuxième journée de mobilisation. Là, on regarde l'évolution. Et en fonction, on regarde comment est-ce qu'on peut préparer la troisième journée. Et si, après, comme ça, des journées... Il y a un moment donné, le mouvement finit par prendre, ce qui n'est pas le cas depuis 2012, en l'occurrence, donc c'est la catastrophe. Eh bien, à un moment donné, peut-être qu'on espère que ça prendra une forme collective. Mais pour reproduire quoi ? Un futur 2010 ? On n'arrive même pas à faire des trucs, on n'arrive même plus à faire de manif nationale. Donc, en fait, là, donc là, non. C'est pour ça que je pense que Ruffin, il a raison de mettre le doigt là-dessus. C'est pas une façon de jeter la pierre à ceux qui font preuve d'une générosité exceptionnelle pour prendre de leur temps et sacrifier finalement une partie de leur confort et de leur bien-être pour se battre pour des causes d'intérêt général. C'est pas ça. Mais c'est de dire que il faut que ceux qui mobilisent les hommes derrière des stratégies d'action, donc en premier lieu les syndicalistes, qu'à eux, il leur incombe la responsabilité de réfléchir à la façon dont aujourd'hui notre monde est structuré du point de vue des rapports de force pour qu'on puisse enfin faire des choses efficaces. On lâche rien, 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 on lâche rien. Donc ça c'est l'autre point très important sur notre question, c'est la question de l'efficacité dans le militantisme. Ce qui se passe, moi je crois, c'est que l'accumulation des défaites, en fait, je vais le dire autrement, ce sera peut-être une forme de caricature de ma part, mais je vais le dire quand même. C'est que il y a un facteur anthropologique qui nous est pas très favorable. Le cerveau humain est fait de telle sorte qu'il est spontanément résilient. C'est-à-dire qu'une personne qui est exposée à une souffrance régulière, répétée, eh bien, si elle veut à un moment donné pouvoir continuer de survivre et non pas céder à la souffrance, il faut qu'elle puisse l'intégrer. Et donc, le cerveau est une machine à intégrer, à intégration. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque, surtout la gauche radicale, lorsqu'on est confronté à un certain nombre de défaites, eh bien, il y a une sorte d'accoutumance qui se fait, et qui fait que l'efficacité de l'action ne devient plus une priorité. Et alors ça, c'est très important parce que, à la base, ça vient d'un principe extrêmement sain, qui est qu'on ne devient pas militant sous la condition que le tractage qu'on va faire réussisse. Non, on est militant parce qu'il y a des injustices qui nous révoltent, parce qu'on est indigné, qu'on ne les supporte pas, et que donc c'est notre devoir d'agir. Et ensuite, la question de l'utilité de ce qu'on fait, de l'efficacité, elle vient en second, et c'est une bonne chose. On ne peut pas dire « moi je veux bien faire grève, mais uniquement si je suis sûr que tout le monde le fera et que du coup on va gagner ». Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Non, il faut faire grève parce que c'est injuste, parce qu'il y a des raisons objectives de faire grève. Et ensuite, évidemment, on espère que ça va marcher. Mais ça n'ôte aucune valeur, même s'il y a échec, à la grève qu'on a faite. Par contre, le problème, c'est qu'il se produit quelque chose qui est qu'au bout d'un moment, les gens, eh bien, effectivement, agissent par devoir, par principe, c'est-à-dire de façon automatique, et finalement cessent de penser la question de l'efficacité. Alors ça, par contre, non. Là, ça ne va plus. Et alors, nous, on est spécialistes de ça. Hein. C'est-à-dire que dans des villes comme Besançon ou ailleurs, on a un type de militant que moi, j'appelle le militant universel. Et le militant universel, c'est vraiment ça.
De ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, l'égalité. Et comme des cons les a crus, démocratie fais-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs. Le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.
Et ben voilà, actualité terminée.
Ah, t'es comme ça, toi, direct.
C'est fini, quoi.
Ouais. Ça oui. C'était, ça allait, hein.
Pas le jingle de fin ou... Parce que je trouvais qu'on l'avait bien, quand même.
Ouais, ouais c'est vrai. Ouais.
Allez, belle journée.
Pam, 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 pam,